des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Après avoir exploré notre cerveau et notre corps à la recherche du temps, il faut bien avouer que nous ne sommes guère plus avancés. Selon le physicien Thibaut Damour, spécialiste de la relativité générale, le temps ne serait qu'une illusion, une apparence d'ordre physiologique liée à notre cerveau. Qu'est-ce à dire? Que finalement, le temps n'existerait pas? Qu'on nous aurait menti? Que les heures qui passent, elles aussi, sont relatives? Extrait d'un documentaire, Aux frontières du temps, signé Arte.
Il y a un siècle, Albert Einstein démontrait la relativité du temps. Et tous les supporters de foot l'applaudiraient. Car la perception du temps change en fonction du cours du match. La joie du but marqué laisse vite place à l'appréhension. L'équipe qui mène va-t-elle garder son avantage jusqu'au bout? Dans ce cas, le temps s'écoule avec une lenteur éprouvante. Pour cette moitié du stade, les dernières minutes paraissent une éternité. Tandis que pour l'autre moitié, la fin du match approche trop vite. Le temps semble s'être accéléré. Et s'accélère de plus en plus à chaque minute qui passe sans but d'égalisation. Puis, soudain, le temps suspend à nouveau son vol. Les moments importants durent toujours un peu plus longtemps.
Le Temps, nouvelle série d'émissions en compagnie du docteur Dominique Demichel, médecin et psychanalyste. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, le temps, est-ce que dans votre cabinet de psychanalyse, est-ce que le temps peut être perçu parfois comme une névrose, un handicap? Est-ce qu'on peut avoir des phobies par rapport au temps, ou alors des problèmes, de la psyché par rapport au temps?
Je suis pas très très sûr qu'il y ait des choses très très spécifiques, dans le sens où le temps ne me paraît pas être une constante qu'on peut séparer de nous-mêmes. Finalement, on va y revenir, on est tellement ancré dedans que je ne suis pas sûr qu'on puisse le considérer à part. Alors, on pourrait dire quand même, il y a deux choses qui me sont venues quand vous me posiez la question juste avant qu'on commence. Deux choses qui me sont venues. D'abord, des gens qui ont une perception du temps qui est très problématique, par exemple avec des troubles de mémoire, par exemple avec l'impossibilité de se rappeler des dates, par exemple avec, on leur demande, vous connaissez l'âge de votre père ou l'âge de votre mère, ils ne savent pas. Il ne s'agit pas de dire que c'est en soi problématique, parce que c'est le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas de récit particulier, mais ça interroge quand même sur la chronologie et l'histoire de vie. Et puis deuxième chose qui me paraît être beaucoup plus étrange, qui ce sont ces gens dont on a l'impression que dans leur corps, le temps s'est arrêté. Et c'est extrêmement... c'est simple à comprendre. C'est-à-dire, en gros, ce sont des gens qui vont avoir, mettons, 40 ou 50 ans et qui en paraissent 20 ou 30.
Et c'est pas un problème médical, hein, on est d'accord.
Et c'est pas un problème médical, voilà. D'ailleurs, en général, ils viennent pas consulter. Ils sont plutôt ravis de paraître 20 ans quand ils en ont 40.
Mais vous, ça, pour vous, il y a un problème avec ça.
Voilà. Surtout que... le plus souvent, la signification, je vais faire un tout petit peu court et évidemment extrêmement simpliste, c'est qu'à un certain moment, c'est comme si dans le processus d'inscription temporelle dans la vie, ils avaient appuyé sur la touche pause. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors vous allez me dire, en gros, c'est bien, mais si on appuyait sur la touche pause à 20 ans et que quand on a 70 ans, on paraît encore 20 ans, c'est peut-être un avantage. Vraisemblablement non, parce que bien évidemment, ça se saurait si ces gens-là vivaient 200 ans au lieu de vivre 80 ou 100, et que en général, on est rattrapé par quelque chose, et on voit ces gens-là qui, de temps en temps, lorsqu'il y a quelque chose qui se remet en marche, peuvent retrouver extrêmement rapidement, quelques mois ou quelques années, leur âge physiologique, leur âge normal. Enfin, moi, j'ai une situation comme ça de, voilà, d'une jeune femme que j'avais reçue et vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait 20-25 ans, qu'elle était toute jeune. Et puis, elle en avait 20 de plus. Hein. Et c'était très, très évident que quelque chose de traumatique lui était arrivé, dont elle n'avait d'ailleurs pas la mémoire, hein, puisque dans l'émission précédente, on parlait de la mémoire, mais quelque chose s'était fixé ici et avait en gros switché, c'est-à-dire elle n'était plus reliée en particulier à son corps, en l'occurrence c'était son corps qui avait été agressé, fortement agressé, et donc le corps s'était arrêté, il s'était figé. Alors son esprit continuait, mais son corps était fixé. Voilà, et ce... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas une bonne chose.
Alors, docteur Dominique Demichel, on attaque peut-être la partie la plus étonnante du temps, en tout cas la plus déstabilisante. C'est évidemment le temps subjectif. Comme on l'a entendu dans la petite introduction, un match de football, il n'est pas vécu de la même façon. Et puis, ce temps subjectif, tout le monde en a des expériences, des dizaines d'expériences. Tout le monde a ressenti l'ennui en cours de maths ou bien, au contraire, l'excitation d'une rencontre amoureuse.
Voilà, il y a au fond, on pourrait dire, le temps objectif et le temps subjectif. Il y a le temps vécu et puis il y a le temps concret. Tout le monde sait bien qu'une minute, ça dure toujours 60 secondes. Voilà, et qu'à partir du moment où on a une vitesse à peu près normale, eh bien 60 secondes, ça dure toujours 60 secondes, quel que soit l'endroit où on soit sur Terre. On sait très bien que par contre, si on prend des vitesses qui sont très 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 importantes, à ce moment-là, le temps par rapport au référentiel initial, ne s'écoule pas de la même manière. Mais ce dont vous parlez ici, c'est le temps vécu, le temps subjectif, qui est évidemment une expérience personnelle et au fond surtout une dimension de notre existence, une dimension de notre rapport au monde. Et on entend bien là, on en avait parlé la dernière fois, toute la place que notre cerveau limbique, hein, notre cerveau des émotions, impose au fond à ce temps-là.
Mais c'est le contenu affectif que l'on va mettre dans l'événement qu'on est en train de vivre qui va le ralentir ou l'accélérer. Finalement.
Voilà. Y a cette expression, par exemple, ronger son frein, qui dit bien aussi qu'il y a quelque chose là qui est extrêmement difficile à vivre. Donc on a vu un tout petit peu la question du temps physique, j'en parlais avec les 60 secondes, de la flèche du temps, vous l'aviez rappelé lors de la précédente émission dans votre introduction, avec le temps linéaire, la courbe du temps, le temps cyclique. Voilà. Et je pense qu'on navigue tous à l'intérieur de nous-mêmes entre ce temps linéaire avec tout notre passé qui est, je le rappelle, je le disais la dernière fois, un présent intérieur, et puis cette perspective-là, et d'autre part, ce temps cyclique à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce temps vécu, c'est d'abord une expérience qu'on connaît tous. Voilà. En gros, comme vous savez, je travaille à la consultation douleur. Et par exemple, le vécu de la douleur n'est pas le même suivant les circonstances. Quand on est tout seul au milieu de la nuit et qu'on a très, 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 très mal aux dents, la nuit paraît interminable. Si on prend le DVD de la Grande Vadrouille et qu'on se remet la Grande Vadrouille, même si on l'a déjà vue 50 fois, en gros, pendant 1h30 ou 2h, on va moins ressentir la douleur. Puis quand ça va être fini, la douleur va être de nouveau présente. Ça, c'est lié à nos perceptions sensorielles. Il y a une masse d'informations qui arrivent dans notre cerveau. Notre cerveau la traite en fonction de l'importance donnée aux informations. Et voilà. On sait aussi, par exemple, que si on a mal à la tête, mais qu'on va prendre du paracétamol ou du doliprane, que le temps que le comprimé se dissolve dans le verre peut être très long. Voilà, et les laboratoires, d'ailleurs, ont parfaitement bien compris ça, parce qu'ils ont fabriqué des formes LIOC. Les formes LIOC, c'est des petites choses où, entre guillemets, on n'a pas besoin d'eau. Mais sur le plan du vécu psychique, on met ça dans la bouche, ça fond tout de suite. C'est vrai que ça passe un petit peu plus vite dans la bouche, dans le sang, mais on a surtout le sentiment qu'il n'y a pas besoin de prendre le comprimé, d'aller chercher la boîte, de le sortir, de le mettre, d'attendre, de tourner, et puis ce comprimé qui n'arrive pas, voilà, la forme effervescente est faite aussi pour que ça aille plus vite, c'est-à-dire pour raccourcir ce temps de douleur qui est un temps subjectif vécu difficilement.
Alors, on a tous cette expérience-là aussi, qu'enfant, le temps passait beaucoup plus lentement. Une année scolaire nous paraissait l'équivalent de plusieurs années quand on est adulte.
Oui, je pense
c'est
que...
C'est étonnant aussi, cette partie-là.
Oui, alors, ça, c'est lié à la représentation de l'espace et du temps, et surtout à la capacité à avoir une échelle. On dit souvent, vous savez, que l'âge de raison, c'est l'âge de 7 ans. Pourquoi on dit ça? Essentiellement, probablement, parce que il y a une vraie connaissance et une vraie intériorisation du temps. Et d'ailleurs, certains disent une reconnaissance de la mort. C'est-à-dire l'enfant a compris à l'âge de 7 ans que la mort existe. Alors la mort, ce n'est pas obligatoirement la mort de quelqu'un. Ça peut être la mort des fleurs, ça peut être la mort de l'arbre, ça peut être le cycle des saisons. Voilà. Donc, dans cette extrême difficulté que l'enfant a à se projeter, il ne peut pas apaiser quelque chose de son désir parce qu'il n'a pas de représentation. On sait très bien que pendant très très longtemps, l'enfant, entre demain et hier, il a du mal à faire la différence, essentiellement parce qu'il vit dans le temps présent. Ça, en gros, jusqu'à 3 ans, c'est en tout cas comme ça. Après, il commence à avoir cette représentation. Et tous les parents savent qu'ils apprennent à leur enfant à compter, par exemple. Et quand est-ce qu'on va voir mamie? Eh bien, il y a encore 3 dodos. Voilà, donc tu vas encore dormir 3 fois. Et on donne une échelle de temps qui est perceptible pour l'enfant. Donc là, cette perception du temps, pour l'enfant, si on lui dit c'est dans 3 jours, ça ne va représenter rien. Tandis que s'il sait que le soir va arriver, qu'il va faire un dodo, que le lendemain il va se réveiller, puis qu'il va encore se rendormir, il va avoir une représentation. Mais en gros, si vous lui dites on va voir mamie dans 3 mois, il y a des chances à un certain âge qu'ils ne sachent pas faire la différence et que peut-être au bout de 3 jours, ils vous reposent la question « Quand est-ce qu'on va voir mamie ?» Mais vous allez lui répondre « Mais je t'ai déjà répondu, c'était juste il y a 2 jours. » Mais il n'a pas cette représentation. Donc, cette représentation et surtout cette échelle de temps est très importante. Vous, vous savez bien, et nous savons bien que on a ce lien, par exemple, entre l'espace et le temps. Voilà, on sait qu'en gros, quand on est en voiture, on fait 1 km par minute. Donc, en gros, que quand on a 60 km à faire, ça va durer en 1 heure. Évidemment, si on est dans les embouteillages, c'est pas ça. Si on est sur une autoroute, c'est pas ça. Donc, cette perception du temps est très liée à nos capacités de représentation. Donc, tant qu'on n'a pas des capacités de représentation et de mise en scène du lien entre l'espace et le temps, c'est souvent très difficile d'avoir une perception relativement, je dirais pas objective, mais de relativement libre du temps. Pour pouvoir comprendre le temps, il faut pouvoir s'en faire une représentation.
Alors, évidemment, tout autour de nous, les gens se plaignent de ne pas avoir de temps. Donc, on parle bien ici du temps subjectif, mais notre conscience s'approprie le temps. Donc, on pourrait presque apprendre peut-être à maîtriser le temps, pourquoi pas ?
Je ne pense pas qu'on puisse apprendre à maîtriser le temps dans le sens où, mais je comprends bien, je pense, le sens de votre question, dans le sens où, bien évidemment, le temps, on ne maîtrise rien du tout.
Mais ce temps subjectif, s'il est lié par rapport à nos émotions, notre affect.
Voilà, voilà. D'ailleurs, vous savez, il y a cet adage qui dit « Montre-moi ta bibliothèque, je te dirai qui tu es. Montre-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » Voilà. Et que de plus en plus, on pourrait dire « Montre-moi ton agenda » de ton temps de la semaine, et en gros, je te dirai qui tu es, parce que les investissements que l'on fait dans notre semaine sont essentiellement liés à notre hiérarchie de valeurs. Donc, apprendre à gérer le temps, c'est le plus souvent apprendre à gérer nos propres valeurs, c'est-à-dire notre hiérarchie de valeurs. C'est ça qui va déterminer les choix que l'on fait dans notre existence. Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire, dans une certaine mesure, on apprend à gérer le temps, mais aussi on apprend à gérer nos valeurs. Alors, il y a un autre élément qui me vient à l'esprit ici, qui est la notion de rapport au temps qui passe en tant qu'espace difficile à vivre. Hein. Certaines personnes peuvent dire, par exemple, « Ah, moi, je ne supporte pas d'avoir des temps morts. Hein. » Voilà, dans le mot « temps mort », il y a bien le temps. Alors, moi, je rappelle souvent, et parfois de manière un petit peu provocante, mais en fait, votre temps mort, c'est un temps de mort. C'est-à-dire, au fond, ce qui se passe, c'est que vous vivez ce temps-là comme associé à la mort. Et quand les gens réfléchissent, ils se disent qu'en effet, il y a quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une forme d'anxiété ou d'angoisse. On peut revenir éventuellement après sur la différence entre l'anxiété et l'angoisse, ce n'est pas la même chose. Et donc, ils vont remplir. Hein. Dans notre société, les sollicitations sont tellement importantes, en effet, que voilà, on a toujours quelque chose à faire. Et que probablement, en raison de notre capacité à tenir ou non notre anxiété ou notre angoisse, on se garde des petites choses sous le coude pour faire. Hein. Voilà, si j'attends chez le dentiste ou si j'attends chez le médecin ou si mon train a du retard, eh bien, est-ce que je peux accepter ce temps qui passe, mais qui va être un temps de vide ou qui va être un temps de vie suivant ce que j'ai envie d'en faire? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de très angoissant? Et dans ces cas-là, il faut que j'apporte un livre, que j'ai mon ordinateur à côté de moi. Heureusement que j'ai mon portable et que je vais me brancher tout de suite sur Internet pour m'occuper. Donc, en effet, le temps vécu, il relève de l'expérience réelle que l'on a, mais aussi de l'appréhension, de nos capacités à nous approprier le temps qui arrive et qui ne se déroule pas toujours tel qu'on le souhaiterait.
Alors, ce remplissage du temps peut avoir évidemment des conséquences désastreuses, parce que les personnes qui ne supportent pas de perdre du temps vont amener du travail jusqu'à dans leur lit. Et puis, on parle beaucoup, c'est vrai, depuis quelques années, des burn-out, des gens qui n'arrivent pas à arrêter tout simplement.
Deux situations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ceux qui sont dans une hyperactivité, hein, les gens qui sont dans une hyperactivité, je pense que c'est important de concevoir, et peut-être s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent, eh bien, il ne faut pas penser ce que je vais dire comme une sorte de jugement de valeur, mais comme une espèce d'observation. Le plus souvent, cette hyperactivité, elle est défensive, elle est protectrice. Le problème, c'est qu'en effet, comme vous le disiez, si cette hyperactivité devient trop dépendante, elle va nous épuiser et en général, il va se passer quelque chose. Et je dois dire qu'en général, à ce titre-là, le corps est très très doué pour nous faire rencontrer comme par hasard une bonne peau de banane, réelle ou symbolique, et le corps dit stop, le corps il arrête. Alors on est malade ou on a autre chose ou voilà. Le burn-out, c'est pas tout à fait la même chose parce que ça relève essentiellement d'un rapport à l'autre, le burn-out. Hein, le burn-out, je dis souvent que c'est une pathologie du don. Les gens qui font des burn-out sont des gens qui donnent et qui donnent sans compter. Et pour revenir au sujet de notre émission, qui donnent sans compter leur temps en particulier. Voilà, la personne qui est vigilante par rapport à elle-même et qui termine de travailler à 17h, en gros, à 5h moins 5, l'ordinateur, s'il y en a un, sera fermé, le manteau sera endossé, la clé de voiture sera dans la main, et voilà. Et on voit bien que ça, évidemment, ça peut peut-être poser des problèmes s'il y a un travail à finir, mais au moins cette personne-là, elle va se respecter, elle va se ménager. Voilà, celui qui est dans le burn-out, il est 5h30 et a dépassé déjà le temps imparti au travail normal et se dit « oui, mais quand même, il faut que je finisse ». Et puis mon patron ou mon collègue ou je ne sais pas trop quoi en a besoin. Voilà. Et vous voyez, donc c'est une pathologie du don. Donc on est dans une dimension subjective qui bien évidemment a un rapport avec le temps puisque la façon qu'on a de gérer notre temps est au fond le reflet de notre identité, de notre rapport au monde, donc aussi de notre expérience. Hein. On voit ça par exemple très bien dans les solidarités familiales transgénérationnelles où les enfants qui ont eu des parents qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, ont assez naturellement tendance à faire la même chose. Hein.
Alors, en tant que parent, tout le monde a entendu ses enfants dire qu'ils s'ennuyaient. Or, l'ennui semble disparaître dès l'âge adulte. Est-ce que l'ennui est justement un ralentissement du temps?
Alors, il y a deux types d'ennui. Moi, je dis souvent, et peut-être c'est un petit peu caricatural, qu'un enfant ne s'ennuie jamais. Hein, parce qu'il n'a pas besoin d'éléments très importants. En gros, un papier et puis des crayons de couleur, ça suffit pour créer un monde. Donc, cependant, ce que vous dites, c'est vrai. Les enfants, ils disent « mais je m'ennuie, j'ai rien à faire ». Je pense que dans la grande majorité des cas, il faut l'entendre comme un rapport au vide. Donc, ça relève pour moi de l'anxiété. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes et de les emmener obligatoirement chez le psy à raison de 3 séances par semaine pendant 10 ans. Non, pas du tout. Mais il s'agit de dire, eh bien, voilà, ton potentiel créatif, à toi de l'assumer. Donc, il y a quelque chose que tu sens comme une sorte de vide. Ce vide est un peu anxiogène pour toi. On va essayer de travailler. Mais que l'enjeu n'est pas de remplir. hein, parce qu'autrement, on est dans une polarité d'hyperactivité, et tout le monde sait que les troubles de l'attention avec hyperactivité, c'est une pathologie très, très invalidante, qui est dans ce grand fourre-tout, que ça aille des dysphasies, dyspraxies, dyscalculies, tout ce qu'on veut, dysorthographies, jusqu'aux troubles du spectre autistique, c'est-à-dire des gens qui peuvent être un petit peu limites, voire avoir un syndrome d'Asperger. Hein. Donc dans cette grande problématique-là, j'ai envie de dire, l'enfant qui s'ennuie, il faut lui apprendre à gérer son rapport au temps, mais pas en temps du temps qui passe parce que le temps s'écoule, mais dans son rapport à sa créativité, du rapport à son désir. Il y a probablement quelque chose de l'ordre d'une anxiété, il a besoin de remplir. Voilà. Et malheureusement, j'allais dire, souvent c'est un petit peu la tablette ou le téléphone qui viennent ici remplir ce vide, et je crois que c'est vraiment pas bon pour le cerveau.
Oui. Et alors, à l'adulte, on lui conseillerait l'inverse, d'apprendre peut-être à s'ennuyer un petit peu plus.
Voilà, dans le sens où la créativité, dans notre monde, est extrêmement, extrêmement associée au faire et à l'agir. Hein, alors qu'il y a une toute autre créativité qui est extrêmement importante, même pour devenir créatif après dans l'agir et dans le faire, qui est la rêverie, par exemple. Hein, on pourrait lire tout ce que Bachelard a écrit là-dessus. Mais je pense que cette rêverie a une fonction extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Là, on est dans un rapport au temps, en effet, qui est un rapport où on lâche, où on s'ouvre, où on accueille. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, je suis un tout petit peu, pas toujours très gentiment critique vis-à-vis de ces techniques de qu'on appelle par exemple de méditation pleine conscience, etc., où de temps en temps, on a le sentiment qu'il s'agit de se créer un temps forcé dans lequel il va y avoir une espèce de vide obligatoire. Non, je pense que voilà, ce type de choses, il suffit de se dire, on se donne dans la journée des temps de rêverie, des temps où on somnole, des temps où on se rappelle de certaines choses, parce que ce sont comme des clairières au milieu d'une forêt faite de bruissements, de travail, mais c'est plutôt quelque chose qui est souvent lourd.
Hein. Mais c'était l'objet justement de ma prochaine question. Le MIT dans le Massachusetts a développé la plus grande école de méditation pleine conscience, c'est-à-dire effectivement on s'assoit et on est dans cet instant présent. Donc un temps qui s'écoule dans l'exactitude du présent, bien sûr de manière symbolique évidemment, hein, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire être dans le présent, mais en tout cas on fait attention à simplement sa respiration, sa position, etc. Oui, et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, de plus en plus reconnu même par la science, le MIT c'est pas les premiers hurluberlus venus, pour réguler un certain nombre de pathologies entre autres.
Alors un autre élément qui est introduit dans ce que vous signalez là, et dont vous-même vous parlez, c'est le rapport qu'on entretient avec son corps. Hein. Parce que en effet, dans ces temps de méditation, ce qui va être le plus important, et d'ailleurs les petites phrases incitatives, les petites phrases inductives de ce temps-là sont regardez comment vous êtes assis, est-ce que vous sentez ce qui se passe sous vos ischions, enfin sous vos deux fesses, comment sont posés vos pieds sur le sol.
C'est-à-dire la respiration on lâche, très importante, évidemment.
Voilà, et la respiration qui est très importante. Mais elle est très importante en tant que, enfin pour moi en tout cas, en tant que attention particulière à son corps, qui devient une sorte de prétexte, c'est-à-dire ce lien à son corps, c'est avant le texte. Et le texte, à mon avis, c'est la rêverie, mais dans une rêverie globale, c'est-à-dire une rêverie qui n'est pas simplement que du côté d'un imaginaire détaché du corps, mais au contraire d'un imaginaire qui est relié au corps.
Alors, il y a un autre phénomène très subjectif lié au temps, et là vous allez pouvoir nous en dire quelques mots parce que je crois que vous êtes passionné par cela, c'est la musique. La musique, c'est l'art aussi de créer du temps de plus ou moins rapide, plus ou moins lent, puis ça s'accélère et puis ça ralentit. Et là, en écoutant la musique, effectivement, on a parfois vraiment l'impression de sortir du temps. C'est très très étonnant.
Oui, je ne sais plus qui disait ça. D'ailleurs, le silence après une symphonie de Mozart, c'est encore du Mozart. Et voilà, on sent bien que la charge émotionnelle qu'on a écoutée dans une œuvre musicale qui nous touche, elle va au-delà de la dernière note, hein, au-delà du point d'orgue de la partition. Moi, j'écoute beaucoup de musique, mais ça vaut que pour moi, hein, simplement. Une des caractéristiques, il faudrait dire plein de choses sur la musique, alors je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais c'est tout à fait quelque chose qui est passionnant. Bien évidemment, la musique, ça n'est pas un art de l'espace, c'est un art du temps. Hein, l'architecture, la sculpture, par exemple, la peinture, sont des arts avant tout de l'espace, même si dans une œuvre architecturale, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de temps qui passe, par exemple, avec un mouvement. Hein, il peut y avoir un vrai mouvement dans une pièce architecturale. Dans une sculpture, il peut y avoir un mouvement aussi. Donc le temps est là, même si le temps est suspendu. Mais on sait bien que, je ne sais pas, Eros qui tend son arc, eh bien, le temps est là, très présent. La musique, c'est quand même l'art du temps.
Et... qui peut être extrêmement sophistiqué quand on pense aux musiques africaines qui sont capables de découper le temps en 5, 12, 25 de manière infinie. Quoi.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai un de mes fils qui joue dans un orchestre de la trompette et qui a une capacité à repérer, à faire des rythmes de temps absolument éblouissants. Et heureusement qu'il a un logiciel qui lui permet d'étaler tout ça pour qu'il me permette d'écouter. Autrement, moi, je n'ai pas les compétences pour entendre ce que lui, il entend. Et il fait des 7 neuvièmes, des fractions de temps, voilà, qui sont tout à fait étonnants. Et c'est vrai que quand on écoute de la musique, et quand vous évoquez, par exemple, les musiques africaines, enfin, surtout d'Afrique noire, par exemple, on voit bien que le rythme nous saisit et qu'il y a une vibration qui se joue dans le corps et qui vient marquer le temps, découper le temps, hein, comme si on avait une petite paire de ciseaux.
Docteur Dominique Demichel, eh bien, alors finalement, c'est peut-être Thibaut Damour qui avait raison, le temps n'existerait pas, il n'existerait que dans notre tête.
En tout cas, on sait bien que quand on attend un événement avec impatience, on perçoit un espèce de temps compact qui serait comme du béton qu'on n'arriverait pas à percer. Si nous nous ennuyons, on sent un espèce de temps là qui s'étire, qui fait des espèces de contours absolument impossibles. On sait bien que si on va être opéré, par exemple, eh bien, on a le droit d'être angoissé, que celui qui sait que le soir, il va retrouver son amoureux ou son amoureuse, eh bien, la journée va lui paraître très très longue, mais en même temps, il est porté par quelque chose de très important. On sait que le jouisseur qui passe son temps à brûler sa vie, eh bien, il risque d'y avoir beaucoup de choses consommées et peut-être détruites. On sait bien que le désespéré qui est là avec sa mélancolie, un mélanoscolos, c'est-à-dire sa boue, sa bile noire, eh bien, là aussi, il y a un rapport au temps. On sait que quand il y a une fête, eh bien, voilà, on est bien dans la fête et puis qu'on trouve que ça se termine trop tôt. Ce qui me semble important, c'est que le rapport que l'on entretient avec le temps ne se situe pas que dans une polarité passive. Il y a des choses, bien évidemment, et beaucoup de choses qui nous échappent. Mais je pense que si une partie des auditeurs se sentent en quelque sorte contraints et trop contraints par des exigences temporelles, alors ils peuvent prendre le temps de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que comprendre ce qui se passe permet de retrouver un espace de liberté. Donc, voilà, le temps, c'est notre contrainte, hein. Vous savez, quand on demande par exemple aux enfants, est-ce que vous pouvez définir vos parents ? La première réponse qui revient le plus souvent, c'est « ils n'ont pas le temps hein, ». Ils ne sont jamais disponibles. Alors, évidemment, ce n'est pas très, très, très joyeux pour les parents, mais c'est « ah, écoute, il faut que je finisse ça, j'ai ça à faire, tu m'en reparles un petit peu plus tard ». Voilà. Bon, peut-être il y a des tas de choses à reconsidérer. D'abord, dans une prise de conscience que on n'est pas dans la réalité enfermé dans le temps, mais qu'on est souvent complice de quelque chose, même quand ça nous pèse, et qu'y réfléchir, je pense que ça peut permettre vraiment de retrouver de la liberté.
Voilà, reprendre le pouvoir sur le temps. Ouais. Merci beaucoup, docteur Dominique Demichel. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Merci Simon, au revoir.